Bonjour à tous. Merci de la présence des étudiants du lycée Granier et du lycée de Loiselet qui ont préparé quelques questions auxquelles on se consacrera après une petite présentation des auteurs qui sont Sophie Wouters à ma droite et Ruda à ma gauche. Je vais faire honneur à Sophie qui est ma compatriote belge, donc on va commencer par elle. Pardon ?
Et l'unique belge.
L'unique belge, oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Hein,
non,
mais...
non, mais
ici à... Oui. Donc ici à Chambéry, oui, l'unique belge. Bon, Sophie Wouters est l'auteur d'un roman qui s'appelle Célestine. Alors, qui est-elle ? Sophie Wouters est bruxelloise, c'est une autodidacte belge. Et avant de passer à l'écriture, son travail a été porté principalement sur les arts graphiques, les collages photos, la peinture, d'autres choses encore.
Oui, fusain, crayon, enfin.
Oui. Technique mixte. Oui. Voilà.
Et puis un jour, vous passez à l'écriture de ce roman qui s'appelle Célestine, donc, et qui raconte l'histoire d'une fille née en 60. Donc, elle n'est pas toute jeune. C'est un peu notre âge.
Voilà, non, elle est née. Oh oui, voilà, après, un peu d'années près, elle est née en 56, oui, c'est à peu près notre âge. Oui.
Donc, elle a une vie très particulière parce que, en fait, ses parents meurent à sa naissance dans un accident de voiture et elle naît finalement dans cet accident de voiture. Elle est recueillie par sa tante qui s'en occupe, disons, mais qui ne l'aime pas particulièrement. Et le mari de cette tante est lui quelqu'un qui n'était pas préoccupé par les enfants et qui accepte quand même la présence de cette petite. Alors Célestine va grandir, elle va grandir, autant le dire, en âge et en sagesse, parce que c'est une fille, elle est très belle, elle travaille bien à l'école, bref, tout ce que tout le monde peut rêver. Et puis, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, un jour, dans le village, oui, il faut préciser aussi qu'on se trouve à la campagne, et dans le village où elle vit, il y a une famille de Parisiens qui vient s'implanter pour acheter une maison de vacances. Et elle va tomber amoureuse du fils de cette famille qui s'appelle Adrien. Eh bien, encore une fois, on peut se dire elle est belle, elle va vivre une histoire d'amour merveilleuse. Mais si vous avez été attentif, vous avez vu que les premières lignes de ce roman sont consacrées à un procès d'assises. Et donc, en fait, l'histoire va très mal tourner. Alors, je vais commencer par une première question. Après, je reviendrai vers vous, Ruda. Pourquoi êtes-vous lancée dans l'écriture après un travail de peinture ?
En fait, pendant bien plus de 20 ans, j'ai parlé énormément de l'être humain dans mes tableaux. Et puis, je me suis rendu compte que j'ai passé une année à faire que de l'abstraction, comme si j'en avais un peu... J'étais un peu pas arrivée au bout parce qu'il y a tellement de choses à dire sur l'être humain, mais j'ai fait quand même des centaines de tableaux dans ma vie où je parlais essentiellement de l'être humain. Et j'étais comme arrivée un petit peu, pas au bout de quelque chose, mais j'ai toujours adoré les mots. J'ai toujours eu beaucoup d'imagination et j'avais envie de parler de l'être humain autrement. Parce que Célestine est un personnage relativement lisse puisqu'elle est belle, intelligente, douce, etc., mais elle est surtout là pour mettre en exergue le problème chez les autres, ce qu'elle engendre. Et donc, j'ai pu parler énormément de l'être humain dans Célestine. Quoi. Et donc, c'est une autre façon de m'exprimer sur l'être humain.
Merci. Mmh. Je me tourne vers vous, Ruda. Vous êtes un artiste français, plutôt orienté, enfin pas plutôt, nettement orienté vers le slam et le rap. Et vous avez toujours aimé les mots, au point que maintenant vous écrivez un roman qui s'appelle « Les mots nus ». Alors les mots nus, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire de Ben, que ses amis appellent Benji. Et c'est peut-être plus doux Benji que Ben, parce que Ben, voilà, c'est monosyllabique, c'est froid, c'est carré. Et Ben, lui, va vivre plutôt dans les années 90 et va vivre... C'est pas juste ? Ah oui ? je pensais. Donc, Ben vit dans les années 90 et est situé géographiquement plutôt dans la banlieue, mais il fait effectue des allers-retours entre Paris et la banlieue. Alors là, lui aussi, un peu comme Célestine, c'est un garçon bien. Il est aimé par sa mère, son père s'en désintéresse, on a toujours un peu ce même schéma. Et il va grandir avec des valeurs. Des valeurs de résistance, des valeurs qui vont le mener à commettre, ou non, des actes auxquels il ne s'attendait pas. Donc, quelque part, on a deux histoires où les héros sont des personnages qui sont menés plus loin, au-delà de ce qu'ils voudraient. Alors, vous aussi, vous avez un parcours un peu semblable à celui de Sophie, c'est-à-dire que vous passez du slam à l'écriture d'un roman. Alors, comment ça s'est passé ?
Alors, bah déjà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être là, c'est super agréable de voir autant de visages, autant d'oreilles prêtes à poser des questions ou à nous entendre, donc c'est vraiment cool. Pour répondre à votre question, Marie-Jo, moi je suis plutôt habitué au format court. Alors je sais pas si je suis bon là-dedans, mais c'est ce que je sais faire. C'est-à-dire des poèmes, des chansons, ou des textes voilà, qui tiennent sur une page A4. Et moi j'ai toujours envisagé l'écriture comme un challenge, un défi. Et j'ai toujours été attiré par l'écriture d'un format beaucoup plus long, une narration qui s'étendrait sur plusieurs pages. Je crois que c'est un des moteurs qui a déclenché l'écriture. Et après, il y a une grande part d'intuition et d'envie un peu impalpable. On ne sait pas trop pourquoi. À un moment, ça nous saisit. Et cette envie devient tellement pressante qu'on est obligé de l'accomplir.
Oui, c'est une envie pressante, mais en même temps, elle ne doit pas être très facile à franchir. Ce cap ne doit pas être facile à franchir. Parce que si vous avez l'habitude d'écrire des récits courts, vous avez l'habitude d'avoir terminé votre texte rapidement. Or ici, ce n'est pas le cas.
Non, d'où cette dimension, je trouve, de défi, de challenge. De toute façon, l'écriture, pour moi, ça a toujours été un saut dans le vide, un saut dans l'inconnu. Et voilà, et d'envisager une narration au long cours, on peut avoir le même point A, le même point B sur un texte très court. Mais là, d'étendre, en fait, s'attacher au personnage, avoir une autre approche de l'écriture aussi, je trouvais ça fascinant.
On dit toujours que dans un premier roman, il y a un engagement personnel. Est-ce que c'est votre cas ?
Bien sûr. Bien sûr. Après, mon personnage, j'aime bien le présenter comme un personnage mosaïque, c'est-à-dire qu'il emprunte beaucoup à mon histoire personnelle, à ma trajectoire personnelle, mais aussi il est nourri de plein d'histoires qui ne m'appartiennent pas, qui ont été vécues par d'autres ou que mon héros aurait aimé vivre. Moi, j'aime bien avoir cette image de checker en fait, dans lequel j'ai mis plein de choses, plein d'histoires entendues, fantasmées, d'avoir mélangé tout ça et de l'avoir renversé sur une feuille. Et ça donne vie à un personnage.
Chez vous, Sophie Waters, est-ce que c'est la même construction ? Est-ce que vous avez une grande part personnelle dans ce roman ?
Non, absolument pas. Mais par contre, pour moi, c'était vraiment un roman où je n'avais pas du tout l'impression de parler de moi. Mais avec le temps... À force, parce que Célestine en Belgique est sortie il y a plus longtemps que ça, à force d'avoir des interviews, des échanges avec des élèves en Belgique, ou répondre à des courriers qui aujourd'hui c'est sur Messenger ou par mail, etc., j'ai réalisé, en fait, on m'a beaucoup posé la question au départ, qu'est-ce que j'ai de Célestine ou Célestine a de moi ? Et moi, je dis, oh là, pas grand-chose, j'ai plutôt de son amie Edith, c'est ce que je pensais. Et puis après un an et demi, deux ans, il a fallu tout ça, j'ai réalisé que j'avais beaucoup plus de Célestine que je le pensais. Donc il y a vraiment une part inconsciente. Et je dis toujours, j'ai l'impression que Edith, sa meilleure amie, qui a un caractère très opposé à celui de Célestine, c'est celle que j'étais obligée de devenir et que Célestine est peut-être l'enfant que j'avais oublié. Je ne vais jamais être aussi belle qu'elle, hein. Ça je vous le dis tout de suite. Mais je veux dire, dans son caractère, en fait... Oui, j'ai réalisé que j'avais en fait beaucoup plus de Célestine. Et je suis même assez étonnée parce que, bon, on me dit souvent que j'ai beaucoup de caractère, etc. J'ai pas la sensation. Mais tous mes amis me disent que tu es extrêmement douce. Et ça m'étonne toujours qu'on me. Bon, je sais qu'au fond de moi, j'ai beaucoup de douceur. Et Célestine est quelqu'un de très douce. Et donc, à force de tous ces échanges, je me dis, en fin de compte, oui, j'ai inconsciemment, j'ai peut-être parler plus de moi que je le pensais au moment de l'écriture. Ouais. Mais je n'ai pas, c'est pas conscient, voilà, pas du tout.
Et d'autres, il y a d'autres traits de caractère qui sont semblables avec Célestine ?
Oh non, mais quand je repense à la petite fille que j'étais, en classe, j'étais plutôt une bonne élève, même très bonne. J'étais. Il y a une anecdote très drôle à raconter. C'est que une fois par an, on est plusieurs à se retrouver de l'école, on est une dizaine, et pour dîner ensemble. Et donc, on avait 17-18 ans quand on était à l'école ensemble. Et puis, il y en a plein que je revois depuis l'école. Il y en avait un que je n'avais plus revu depuis l'école. Il me dit, Sophie, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et puis, mon voisin de table qui dit, allez, c'est facile à deviner. Déjà, à l'époque, elle avait tout le temps la tête dans les nuages. Et c'est une expression que j'utilise tout le temps pour Célestine. Donc, c'est vraiment toutes des petites phrases comme ça. Je me dis, mais c'est fou. Il a utilisé exactement les mots pour Célestine. Et il m'a dit que j'avais tout le temps la tête dans les nuages.
Oui, c'est vrai.
Voilà, et tous des petits détails.
Quand on observe ce personnage de Célestine, on constate qu'elle a toutes les qualités et qu'elle a peut-être, je ne sais pas si c'est un défaut, mais en tout cas, elle a cette tête dans les nuages en permanence.
Oui.
Elle est distraite.
Oui, mais moi, par exemple, j'ai perdu ma feuille de route depuis que je suis ici.
Bon, voilà.
On doit me la réimprimer.
C'est voilà. Dit.
C'est dit.
Alors, chez vous, Rouda, quelles sont les parties qui viennent de vous, les traits de caractère qui vous sont propres et qu'on retrouve chez Ben ?
Y a beaucoup de trucs très proches et beaucoup de choses tellement éloignées que ce serait compliqué de faire le tri. Pareil, j'apporterai un peu les mêmes éléments de réponse que Sophie. En fait, quand on fait des rencontres, on a l'intuition de fabriquer des réponses. Des fois, on ne dit pas la même chose. Et des années après, moi, c'est pareil comme toi, tu vois, ça fait un an et demi qu'il est sorti. Je réalise encore des choses. Après, j'esquive pas la question, donc je vais y répondre. Y a certainement la galaxie familiale. Voilà, des choses communes dans l'éducation, dans le rapport au père et à la mère. La galaxie amoureuse, la galaxie amicale, ce besoin de nommer les choses, un désir d'engagement, ou de trouver en tout cas des mots pour le définir, une attache au quartier populaire, évidemment parce que c'est mon ADN, je suis né et grandi en banlieue, et voilà, j'ai été témoin des émeutes de 2005, des émeutes de 2007, un attachement... à l'incarcération, à l'enfermement et donc à la liberté. Voilà, plein de choses en commun et en même temps beaucoup de choses extrêmement différentes puisqu'il y a une espèce de base qu'on habille différemment avec d'autres couleurs, d'autres mots. Et voilà, donc c'est à la fois moi et pas du tout moi. Je ne sais pas si je suis clair.
Oui, je pense que c'est clair, voilà. Pas de problème. En 2005, vous êtes sensible aux émeutes. Est-ce que ça... apporter ses fruits, finalement, parce que vous écrivez le roman à partir de là. C'est 2005 qui déclenche...
Oui, complètement. Moi, je suis témoin, en fait, des quartiers qui brûlent. Et la première question que je me pose, vraiment de manière hyper immédiate, c'est qu'est-ce qui se passerait si cette lutte était animée d'une pensée politique et d'une pensée collective, et si la lutte se déplaçait vers les centres du pouvoir et pas seulement dans nos propres quartiers. Et de là, en fait, je commence à imaginer ce récit. Et puis, j'oublie parce que je passe à autre chose. Et puis, il y a les émeutes de 2007 qui arrivent. J'y repense. Puis, je repasse à autre chose. Et en fait, on voit une espèce de dimension cyclique comme ça dans les quartiers populaires sur les violences policières, sur ce qu'on appelle émeutes, mais qui sont en fait des manifestations de révolte, d'intolérance en fait à ce qui se passe dans ces quartiers-là. Et voilà. Et puis, des années plus tard, je me dis, je vais m'emparer de ce moment-là, de ce truc-là. Et là, on arrive dans l'inexplicable, on ne sait pas pourquoi à ce moment-là. Je n'aurais pas encore le dire maintenant pourquoi c'est sorti là.
Oui, on ne comprend pas non plus tout à fait pourquoi le personnage, à la fin, subit ce sort. Hein. C'est pas évident. Donc, en fait, on a l'impression d'avoir deux tragédies, alors que tout se passe bien. Chez vous, ça se finit tragiquement aussi. Chez vous, Célestine, également. Pourquoi avoir choisi cette ligne de conduite qui est quelque part absurde ?
Bah, c'est la liberté que procure l'écriture et l'écriture romanesque. C'est-à-dire que moi, je suis dans une réalité et je décide en tant qu'auteur de. Parce que quand on est auteur, on est un peu Dieu. On peut faire mourir ses personnages, les faire tomber amoureux, les faire trébucher, les faire se relever quand on veut. Et moi, j'ai pris le parti voilà, d'avoir une espèce de décalage dans la narration. À un moment, on part dans autre chose et on est vraiment dans la fiction. Et à partir de ce moment-là, bah, je laisse. Si j'ai envie de faire mourir mon personnage, il meurt. Si j'ai envie de le faire ressusciter à la page d'après, il ressuscite. Voilà, c'est l'auteur qui décide.
Et chez vous, Sophie Wouters,
pourquoi avoir choisi que ça termine tragiquement?
Oui, c'est ça.
Eh bien, pour moi, c'est pour. En fait, je n'ai pas envie de dire ce qui arrive à la fin, parce qu'il y en a peut-être plein qui ne l'ont pas lu. Mais pour moi, c'est vraiment. Avant même ce qui se passe, je vais dire, à la fin, pour moi, c'est surtout un livre sur le basculement, pour mettre en exergue le basculement. C'est-à-dire qu'en 30 secondes, pour chacun de nous, tout peut basculer, des fois dans le bon sens aussi, hein, mais tout peut basculer. Et c'est un sujet qui me travaille énormément. Et comme je dis souvent, je suis quelqu'un terriblement spontané, mais je sais que je suis terriblement self-control parce que un geste, un mot, n'importe quoi peut faire basculer une vie. Et les mots aussi sont une arme. Et souvent, je dis dans les écoles en Belgique, je ne m'étale pas sur le sujet de harcèlement scolaire, mais je dis souvent, quand on dit un mot, les mots peuvent tuer. Et une fois qu'on a sorti le mot, on ne peut pas le reprendre, on ne peut pas le ravaler, on va dire. Oui, voilà, c'est si ça terminait bien, je pense que je mettrais beaucoup moins, je défendrais beaucoup moins la cause de il faut toujours être self-control. Enfin, bon, soyons spontanés pour tout ce qui est léger, mais tout a un impact. Et ça me travaillait beaucoup, oui, de faire un livre sur le basculement. Et bon, je ne peux pas en dire plus, parce que sinon je dévoilerais la chute. Je ne voyais pas d'autre moyen que de. C'est pas facile d'en parler sans rien dévoiler. De défendre, je vais dire, la cause, mais c'est pas le mot qui correspond, mais sinon je trahirais trop la chute. Je trouve qu'il y avait. Pour faire. En fait, je dis souvent que tout le monde sait que tout peut basculer, mais il y a beaucoup de gens qui ne l'intègrent pas. Et j'ai le bonheur de lire plein de messages où c'est comme si Célestine, voilà, maintenant qu'ils ont lu Célestine, c'est intégré qu'il faut toujours faire attention et qu'une minute, 30 secondes peuvent faire basculer une vie et si pas plusieurs vies. Et pour moi, c'est un sujet qui m'importe énormément. Voilà.
Alors, chez vous aussi, Rouda, les mots sont presque un personnage essentiel. Qu'est-ce que vous leur accordez comme importance? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? À quoi peuvent-ils mener?
Ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout changer, ils peuvent tout transformer. Et c'est l'obsession de mon personnage principal, qui est peut-être une obsession partagée, je ne sais pas encore. L'obsession de mon personnage, c'est justement de reprendre le contrôle du champ lexical. Il dit que les mots sont des armes imparables entre les mains des puissants. Et en fait, dans les quartiers populaires, les mots sont manipulés et les habitants de ces quartiers sont dépossédés des mots et de leur sens. Et pour Ben, cette obsession, c'est d'en récupérer le contrôle, de récupérer le contrôle du champ lexical. Et une bavure policière n'est pas un accident. Une bavure policière est un meurtre commis par un homme sur une autre personne. Des émeutiers ne sont pas des casseurs. Des émeutiers sont des révoltés qui ont besoin d'exprimer quelque chose, qui l'expriment peut-être pas de la bonne manière, mais qui ont besoin d'exprimer quelque chose. Et voilà, et toute la quête de Ben au cours de ce roman, c'est de redonner du sens aux mots et de se les réapproprier.
Alors oui, ces mots, vous les remettez à leur place, c'est très très intéressant. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres moyens de redonner vie, redonner corps aux mots? Comment on peut faire pour que les mots soient justes?
Faut lire, faut être curieux. On peut avancer dans la vie avec peu de mots, c'est pas un problème, c'est pas un obstacle. On peut faire des fautes d'orthographe, on peut avoir une syntaxe approximative. L'essentiel est de les faire vivre, de les faire voyager, de les partager. Et c'est pour ça que moi, je suis beaucoup dans l'oralité. Donc, depuis tout à l'heure, j'ai fait énormément de fautes d'orthographe. Mais voilà, vous ne les avez pas vues parce que je suis à l'oral. Et voilà, et moi, j'aime bien cet aller-retour entre l'écrit et l'oral, les faire voyager pour les rendre le plus vivant possible, le plus accessible possible aussi. Et voir qu'on peut s'en amuser, jouer avec, les partager, vraiment. Je trouve que le mot partage est fort. Il a un vrai sens quand on parle d'écriture et d'oralité.
C'est dans ce sens-là que vous animez pas mal d'ateliers d'écriture, je pense. Et vous voyez des résultats, enfin des résultats pour autant qu'on atteigne une norme, mais bon.
Alors moi, franchement, les résultats, ça ne m'intéresse pas, en fait. S'il y a des effets, c'est des effets induits. Ce n'est pas l'objectif. Moi, c'est de montrer en fait, que même avec très peu de mots, on a capacité d'inventer des choses, de créer des récits, d'inventer des histoires, d'inventer des mondes, d'ouvrir des portes-fenêtres, d'être sur d'autres horizons, de s'échapper et surtout de prendre du plaisir en fait. Et je trouve que voilà, sur un festival du premier roman, il y a cette notion-là aussi de donner la parole à des gens qui se sont amusés, qui ont fait des expériences autour des mots. C'est, peut-être qu'elles sont réussies, ratées, peu importe. Mais en tout cas, ils ont joué avec. La dimension ludique, elle est primordiale. C'est pour ça que là, les rencontres, c'est toujours un peu sérieux et tout ça, mais on oublie qu'à la base, c'est un amusement et c'est une joie aussi de le faire.
Joie aussi que vous avez découvert tout à l'heure en lisant vos propres mots sur oui. Une vitrine.
Ouais, trop marrant. Trop marrant. Surtout que le premier que j'ai vu, c'était en arrivant à la gare, mais c'était un coiffeur, du coup, je trouvais ça un peu chelou. Mais voilà, donc tout est possible. Tout est possible.
Pourquoi ? Voyons-nous. Vous n'allez pas souvent chez le coiffeur, je pense.
Rarement.
Alors, pour revenir à une chose plus sérieuse, votre roman, est-ce qu'on peut le qualifier de roman de banlieue ?
Alors, j'aimerais surtout pas qu'on le qualifie comme ça. Et ça fait un an et demi que j'essaie de montrer en fait que c'est pas un roman de banlieue. C'est un roman écrit par un banlieusard, mais c'est pas, je suis pas le porte-parole d'un territoire. Au contraire, je trouve important de préciser que la banlieue est un des personnages de ce roman. Mais ce n'est pas ce qui motive l'écriture ou ce qui la catégorise.
Chez vous, Sophie Water, ça ne se déroule pas, par contre.
J'aimerais répondre juste pour un truc pour les mots. Moi, oui. Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec lui, mais on n'a pas besoin tout le temps d'être d'accord. Pour moi, personnellement, je trouve que l'orthographe a de l'importance dans le sens où des fois, ça peut changer complètement le sens d'un mot, donc incompréhension entre les gens. Je suis d'accord qu'on n'a pas besoin d'en connaître 36 000, mais on a plutôt intérêt. Moi, je dis souvent quand des fois, il y a quelque chose qui pourrait me vexer. Et je demande d'abord à la personne, qu'est-ce que tu entends par ce mot ? Il me dit, oh, ça, pour moi, c'est ça, ça, ça. Ah bon, nous n'avons pas du tout le même sens du mot. Au contraire, je suis même très flattée. C'est-à-dire qu'il y a aussi une phrase d'Einstein que j'adore. Il y a un intervieweur un jour qui lui demande « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» Et j'adore ce qu'il a répondu. Il a dit « Dites-moi d'abord ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois. » Et donc, on peut connaître peut-être peu de mots, mais on a plutôt intérêt à s'assurer qu'on lui donne bien la même définition. Et ça éviterait beaucoup de disputes, de guerres, de vexations, etc. Et que je trouve que justement la grammaire, l'orthographe, il faut tout faire pour avoir le maximum d'orthographe et de grammaire, parce que des fois ils peuvent. Je donne une phrase que j'ai vue sur Facebook que j'adorais. J'espère que je vais la retrouver. C'est la mort de cet homme que j'ai tant aimé et que j'ai tant désiré. Et la mort de cet homme que j'ai tant désiré, ça change tout. Entre désirer la mort de quelqu'un ou désirer un homme, et le petit « change tout le sens. Donc pour moi, ça a énormément d'importance de tout faire pour avoir le maximum d'orthographe et de grammaire. Et le petit « qui manque change. Oui, je me répète. Oui. Tout.
Mais je crois que ce n'est pas tout à fait contradictoire avec Roudin. Hein.
Oui.
On va commencer à s'embrouiller, ça va être sympa. Alors, peut-être que tu n'avais pas bien saisi. Pour moi, je parlais vraiment d'oralité. C'est-à-dire, effectivement, il faut être extrêmement vigilant. Ouais, l'orthographe à l'oral. C'est-à-dire, quand je dis que tout à l'heure, depuis tout à l'heure, je fais des fautes d'orthographe, on ne les entend pas parce que je suis à l'oral. Ça ne veut pas dire en fait que je n'accorde pas d'importance à l'écriture, au sens des mots, et d'être vigilant à leur portée, etc. Tout à fait. Je suis grave d'accord avec toi, Sophie. Mais pour moi, l'orthographe, la syntaxe, la grammaire sont souvent, dans mes ateliers, des facteurs bloquants. Donc moi, j'ai tout ce qui est orthographe, syntaxe, grammaire, c'est souvent en fin de cycle qu'on va replonger sur les fautes vraiment abusées, bah on va les corriger, on ne va pas les laisser. Néanmoins, pour faire vivre cette écriture à l'oral, je retire en fait ces facteurs bloquants et je m'y attache qu'à la fin. Sinon, en fait, on n'avance pas. Et pour se libérer et pouvoir s'amuser, et ça ne veut pas dire qu'on n'accorde pas d'importance au sens, au son et comment les mots ils s'écrivent. C'est juste que pour moi, c'est une phase qui arrive à la fin. Moi, quand mon manuscrit était bourré de fautes d'orthographe, d'où l'intérêt d'avoir un éditeur qui va dire mais frérot, ça s'écrit pas comme ça en fait. Et donc de remettre toujours pas de la perfection, mais du mieux dans ce que tu as essayé de faire bien déjà. Je disais juste ça. C'est bon, on s'embrouille plus.
Non, de toute façon, donner le sens juste des mots, c'est votre objectif. Hein, donc, je pense que ce n'est pas contradictoire. Il y a une démarche qui s'effectue autrement. Oui. Vous parliez de votre éditeur, votre éditrice. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté dans le cheminement vers la publication de ce roman ?
Bah, énormément de choses en fait, mais c'est un travail très pointu, donc il y a forcément cette dimension orthographique. Et encore, je dis qu'il y avait beaucoup de fautes d'orthographe, j'aurais une bonne note à ma dictée quand même, hein, c'était pas ça va. En fait, c'est un travail de précision, c'est-à-dire, moi, c'est mon premier roman, donc j'ai pas de technique, je sais pas écrire un roman en fait. Donc elle m'a aidé à ordonner ma pensée, ordonner ma narration, ça c'est dans un premier temps, et après, c'est des trucs ultra précis. Je me rappelle d'échanges par mail ou par téléphone où elle m'appelle et me dit on a vérifié en fait la Laguna, elle n'était pas sortie au moment où on en parle, donc ton héros faut qu'il se roule dans une autre voiture. Ah ok, on a vérifié, à un moment le soleil il se couche quand ton héros il marche sur les quais de Seine, mais on est en hiver et à 18h c'est pas possible que le soleil se couche et que les lampadaires s'allument, donc faut changer l'heure. On a vérifié, ton héros est écrit dans un carnet Moleskine, mais Moleskine n'existait pas à l'époque, donc il faut qu'il écrive dans un autre carnet. C'est vraiment des petits détails de pour que le récit soit vraiment dans la réalité. Et après, c'est le sens d'une virgule, le décalage d'une phrase. En fait, c'est pimper un roman. Et moi, c'est exactement ce que je lui avais dit. Je veux que tu me bouleverses, que tu me bouscules et que tu tires ce manuscrit vers le haut. Et voilà. Et surtout, c'est une rencontre incroyable. Oui, avec une femme incroyable qui s'appelle Liana Lévy, sachez-le.
Vous pourrez peut-être être édité chez elle quand vous écrirez des romans. Bon, vous inscrivez aussi ce roman dans une période très précise, d'où d'ailleurs les remarques de votre éditrice. Pourquoi avoir vraiment choisi cette période-là qui n'est pas la nôtre ?
Alors pour une raison vraiment littéraire, je pense, mais encore c'était une intuition. Je voulais que les lectrices et les lecteurs puissent se retrouver émotionnellement dans des dates avec des événements précis.
Oui, alors il y en a énormément, il y a énormément de références et je pense que les lecteurs se sont retrouvés.
Ouais. Alors après, c'est plus pour ma génération, mais je pense que les gens de mon âge savent tous exactement où ils étaient, ce qu'ils faisaient le 21 avril 2002. C'est Le Pen qui arrive au second tour des élections présidentielles, on sait tous. On sait tous émotionnellement, géographiquement, personnellement, intimement, où on était le 11 septembre 2001 et ce qu'on était en train de faire. Et en fait, c'est donner des gros marqueurs historiques pour déjà attraper le lecteur et aussi le renvoyer et que lui se revoie aussi à ce moment-là, où est-ce qu'il était, ce qu'il faisait, ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait.
C'était aussi pour lancer la réflexion sur le monde politique, sur les bouleversements de cette période ?
Oui, mais surtout pour que chacun puisse se l'approprier. Mon héros, il donne un point de vue. Moi, je ne suis pas d'accord avec mon héros à 100% tout le temps. Et j'espère que le lecteur n'est pas ou la lectrice n'est pas d'accord avec lui ou a un autre point de vue. Et en fait, je trouve que la lecture, c'est quelque chose de tellement intime qu'on est dans un... Moi, je suis très lecteur. Il y a des fois, je me dis, mais pourquoi il fait ça, en fait ? Mais moi, j'aurais fait autrement. Ouais, très bon choix, super, bien joué. Voilà, il y a une relation très intime qui se noue avec les personnages dans une narration, je trouve.
Chez vous aussi, Sophie Waters, vous inscrivez votre roman dans une période précise en établissant des repères, principalement télévisuels.
Oui.
C'était aussi un choix d'aller dans cette période-là, d'aller écrire par rapport à cette période-là, que vous avez peut-être connue, mais qui n'est pas celle des lecteurs.
Moi, mais je connais beaucoup l'autre jour, j'étais à une soirée, il y avait un jeune de 30 ans qui m'a dit « Qu'est-ce que j'aurais... » Mais j'aurais adoré naître dans les années 60. Donc, je pense que même la génération... Enfin, je me trompe peut-être, mais on se rend bien compte que ces années 60 ont été fabuleuses. Je les ai adorées. Et puis bon, il y a d'autres raisons pour lesquelles j'utilise les années 60. Je les trouve terriblement photogéniques, ces années-là. Et puis bon, au niveau privé, ma mère ne m'a élevée jusqu'à l'âge de 7 ans. Et tant que j'étais chez elle, c'était des belles années. Après ça, j'ai, comme Célestine, de nouveau, je rêvais qu'une chose, c'était d'avoir 30 ans. De vite grandir, parce que j'ai détesté ma vie de famille de 7 à 21. Et donc, j'ai une mémoire de ces années 60 qui est incroyable, comme si c'était hier. Et puis, ce qui arrive, enfin, avec Célestine et le procès, n'aurait pas été possible aujourd'hui, juridiquement, enfin, pour plein de raisons. C'était vraiment la date limite pour pouvoir écrire cette histoire. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles j'ai mis ça dans les années 60. Et alors, la télévision, comme j'adore parler un peu d'histoire, de certains faits, me permettait de parler de ces... puisque la télévision, comme ce village est très reculé en France, c'était la seule façon d'avoir un lien avec la France et avec le monde. C'était cette télévision. Et de pouvoir faire un petit voyage, pas historique, le mot est peut-être un peu poussé, mais oui... De pouvoir en parler. Donc la télévision, oui, est un personnage comme les autres dans mon livre. Oui.
Parlons justement des personnages. Autre Célestine, il y a toute une série de personnages qui gravitent autour d'elle, oui. Qui sont de très belles personnes. Peut-être pas
tous.
Pas jusqu'au bout, mais bon, voilà quand même. Ouais. Comment est-ce que vous les avez construits, ces personnages ?
Spontanément. Ils me venaient, mais bon... Il faut savoir une chose, c'est que Célestine, c'est incroyable. Je ne savais pas 5 minutes auparavant que j'allais le commencer. Je me suis mise devant mon ordinateur un matin et je me suis demandé ce qui me prenait. J'ai écrit 2 pages qui me sont arrivées comme si je faisais l'écriture automatique. Et j'ai su tout de suite que j'allais le terminer. J'ai su tout de suite où j'allais, quand je n'y avais jamais pensé. Et j'ai su tout de suite la chute que j'allais lui donner. Et de quelle façon j'allais l'écrire, qui est quand même assez particulier. Enfin, on parle beaucoup de ma chute, mais dès le départ, j'ai su... même qu'à un moment donné, c'est la seule chose que j'ai fait d'une façon anachronique, c'est que j'écrivais sans faire de plan, rien, tout était dans ma tête. Et à un moment donné, j'ai eu une illumination des mots, de tout, pour ma chute. Et j'étais vite faire ma chute, parce qu'elle était là. Et puis, j'ai continué mon histoire. Pour arriver à ma chute. Et bon, il est vrai que de temps en temps, on se laisse guider par les personnages. C'est-à-dire, je les connais. Puis, le choix d'un prénom, je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi, est important. Il nous inspire beaucoup de choses. J'adore choisir les prénoms. C'est comme quand on choisit les prénoms pour un enfant qui vient au monde. Le prénom est hyper important. On a le personnage dans la tête, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne peut pas s'affiner ou changer un tout petit peu de trajectoire, parce qu'il nous guide à un moment donné. Comme s'ils étaient réels. Et ça, je trouve terriblement amusant parce que, de temps en temps, même si on sait où on va, on découvre comme un lecteur quelque part ce qu'on est en train d'écrire. Mais moi, ils étaient avec moi dans la pièce, hein, même si je parlais qu'une grande malade. On me dit souvent que je suis très douée pour les dialogues, mais en fait, j'ai que juste à retranscrire ce que j'entends et je pense pas être folle, mais ils sont là, ils sont vivants, ils sont tellement vivants que, oui, ils me guident. Oui, tout à fait.
Et chez vous, Rouda, comment avez-vous construit les personnages qui gravitent autour de Ben ? Parce que là aussi, on rencontre par exemple Oriane, qui est une super nana, ses potes qui sont très sympas aussi, même si ce n'est pas toujours très réglo. Mais...
les personnages qui accompagnent mon héros, c'est soit des antagonistes, soit des gens qui vont le rendre meilleur ou qui vont l'aider à devenir meilleur. Sur les prénoms, en fait, moi, j'en avais que deux. Il y a Ben et Oriane. Et dans le roman, personne d'autre a deux prénoms. Les parents ne sont pas nommés. Tous les personnages qui gravitent autour d'eux dans leur quartier s'appellent les mecs et les meufs de la brousse. Ses deux meilleurs potes s'appellent le Corse et le Serbe. Il y a juste le Serbe, à un moment, on connaît son prénom, mais par accident. Et pour moi, en fait, plus je relis dans ma tête ce que j'ai fait, plus je me dis que c'est l'histoire d'un couple, plus que l'histoire d'un personnage principal. Et j'ai l'impression, en fait, que c'est surtout une histoire d'amour et que Oriane est là pour que Ben soit meilleur, soit plus beau, le mettre face à ses failles, le tirer aussi de son milieu, l'emmener ailleurs et inversement, comme c'est, voilà, c'est une histoire d'amour, donc c'est pas que dans un seul sens. Oui, lui aussi, il l'emmène quelque part, l'emmène dans sa lutte. Enfin, il y a un échange comme ça. Voilà, je pense que c'est surtout une histoire d'amour.
Il y a une très belle synergie entre les deux. Hein.
Ah, merci. Oui, je suis content pour eux. Oui.
Pour vous aussi. Non, ils vont quand même là, ils vont jusqu'où ils veulent aller.
Ah, ils vont jusqu'au bout.
Oui.
Ouais.
Donc ça, c'est essentiel. Ça, c'est sûr. Ouais. Oui. Je vais peut-être demander aux élèves qui ont des questions de les poser parce que vous allez penser qu'on est des vieux embêtants.
Comment on fait pour les micros ?
Alors, je ne sais pas. Oui. Ah oui.
Ah voilà, il y a un micro qui vient.
Un, deux. Oui.
Du coup, vous êtes belge, vous avez grandi et vécu en Belgique, mais vous avez décidé de faire votre roman en France. Enfin, oui. D'où vous est venue cette idée ?
Ça s'est fait terriblement spontanément. Et puis, bon, tout de suite, je suis aussi que la télévision serait un personnage comme les autres. Je vous avoue que l'ORTF de l'époque est quand même plus glamour que la télévision belge. Et donc, je ne sais pas, c'est comme mon nouveau roman parce qui vient de sortir. On me demande souvent pourquoi l'avoir commencé en Sicile quand je n'ai jamais été en Sicile. Et tous les Siciliens me disent que c'est plus... que c'est vraiment la Sicile, comme si j'y avais été. Et je répondais viscéralement et naturellement. J'ai quand même une anecdote à raconter pour expliquer qu'on ne sait pas pourquoi on place à tel ou tel endroit, c'est que depuis que j'ai écrit, que mon roman est sorti, j'ai fait mon test ADN. Et j'ai découvert que j'étais 14%, virgule, je ne sais pas combien, italienne, avec peut-être une origine de Palerme. Et quand je disais que je commençais en Sicile, viscéralement, naturellement. Voilà, je ne sais pas, on ne sait pas dire pourquoi on choisit tel endroit, mais ça m'a paru tout de suite naturel de le placer en France.
Voilà.
J'espère avoir répondu à votre question.
Et j'avais aussi une deuxième question à propos de votre roman, parce que ça commence avec un procès. Et aussi, dans des moments de l'histoire, on retourne au procès.
Oui.
Cette idée, elle vous est venue à la fin de la rédaction de l'histoire d'insérer des morceaux de procès ? Ou alors,
Non, naturellement. Naturellement.
À un moment, vous êtes dit, je vais mettre un morceau de procès ici pour...
En fait, Célestine, je ne sais pas, c'est comme... J'ai des fois l'impression de ne pas en être responsable, tellement l'écriture m'a été naturelle, tout m'est venu tellement naturellement, je dis, je n'ai pas fait un seul plan, et on me dit que tout est bien construit, qu'on s'en sort avec les procès, même, je ne sais pas y répondre, c'est venu, non, tout ce que je peux répondre, c'est que, non, je n'ai pas pensé à les imbriquer après, ça s'est fait, j'ai écrit, il n'y a que la chute que j'ai à un moment donné été écrire, la dernière page, mais sinon, tout s'est fait très naturellement. Voilà.
Bonjour, j'ai une question, enfin les deux peuvent répondre.
Oui, ouais. Voilà,
c'est quoi le processus quand on veut publier un roman, genre aller voir un éditeur, c'est quoi le processus clair pour publier un roman et surtout un premier roman ?
Alors c'est très très compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de personnes qui écrivent et que la chance d'être élue entre guillemets elle est minime. Mais moi bon, je suis vraiment quelqu'un qui risque rien à rien et je suis une jusqu'au boutiste et donc il faut essayer de choisir quelque part si on lit beaucoup quelle est la maison d'édition qui semble le plus proche par rapport à l'histoire qu'on a écrite. Donc il faut faire une sorte de sélection. Il paraît qu'il y a 4500 maisons d'édition en France. C'est quand même énorme. Énorme. Alors évidemment, au début, je pense qu'il a dû faire la même chose que moi, j'en sais rien. On a envie d'un grand nom. On rêve de Gallimard ou d'Albin Michel, etc. Ce qui est une erreur, parce que moi, par exemple, la maison d'Hervé, je m'éloigne de la réponse par rapport à la question. Oui, donc il faut envoyer son manuscrit ou tapuscrit. Et la différence, en fait, c'est manuel ou par ordinateur. Et puis, il faut attendre des mois. Si vous avez une réponse trop rapide, c'est que ça pue et que c'est sans doute du participatif ou de l'auto-édition. Mais on doit attendre des mois. Et puis souvent, on a une réponse négative. Il ne faut pas se laisser démonter. Et que dire de plus ? Je vais laisser continuer parce que j'ai l'esprit un peu embrouillé. Là. C'est un long parcours.
Alors, salut déjà. Oui. C'est exactement ce que vient de dire Sophie. C'est déjà avoir un manuscrit, essayer de repérer en fait, par exemple moi qui viens de la musique, moi j'ai toujours travaillé avec des labels qui me correspondaient ou dont j'aimais la musique, dont j'aimais le catalogue. Donc j'ai appliqué la même formule pour le roman, à savoir d'identifier des romans ou des essais ou des lectures qui te correspondent, qui te plaisent et qui disent « Ah, cette maison d'édition semble me correspondre, en tout cas, elle est dans quelque chose qui me plaît. » Ça, c'est la première étape. Et après, toutes les maisons d'édition, elles ont en place des protocoles différents. Chez Liana Lévy, par exemple, c'est une fiche un peu synthétique où tu te présentes rapidement. Le concept est un peu le pitch du roman. Quelques mots-clés. Et c'est ce qui permet en fait aux équipes de faire le tri. Chez Liana Lévy, par exemple, ils reçoivent chaque semaine entre 50 et 60 manuscrits toute l'année. Et c'est une petite maison d'édition. J'imagine qu'au Seuil ou chez Grasset, les quantités de manuscrits reçus par la poste ou par mail, c'est colossal. Et en plus, souvent, c'est des assistantes, parfois des stagiaires, qui sont chargées de défricher en fait les manuscrits. Et un éditeur, enfin, à ce stade-là, avant de lire complètement ton manuscrit, il va lire 10 ou 20 pages maximum, et malheureusement, il va faire son choix de manière un peu arbitraire sur ces 10 ou 20 pages. Donc je crois qu'il y a vraiment repéré la maison qui te correspond, les gens avec qui tu as envie de travailler.
Et s'il y en a qui veulent écrire, j'ai envie de dire aussi que je viens de parler de grosses maisons d'édition. Et par exemple, moi, je suis chez Hervé Chopin, qui est une très, très belle maison d'édition, mais enfin, qui n'est pas des maisons comme des dinosaures, comme Gallimard, Le Seuil, enfin, et j'en passe. Et je suis archi contente d'être chez eux, parce qu'ils se battent, ils éditent peu, et ils se battent vraiment pour leurs auteurs. Et en fait, dans des rencontres littéraires, je suis tombée sur des écrivains qui étaient dans des grosses maisons d'édition, et qui m'enviaient gentiment, hein, sans rancune, gentiment de ma place, parce qu'ils avaient envie de changer, et ils enviaient là où j'étais, parce qu'ils se rendaient compte que je n'étais pas un numéro parmi d'autres, et qu'ils se battaient vraiment pour leurs auteurs et le texte auquel ils croyaient. Et donc, franchement, il faut arrêter de viser, je pense, pour la première fois, parce que dès que ça ne fonctionne pas, il paraît que dans les croches maisons d'édition, on laisse rapidement tomber. Tandis que les plus petites maisons d'édition se battent vraiment à fond. Et je vis avec les Chopin une aventure extraordinaire. Quoi. C'est juste génial. Et s'il y en a aussi qui veulent écrire, je ne sais pas, la première chose à faire quand on a terminé un manuscrit, c'est de le protéger. Il y a des maisons d'auteurs pour ça. On peut protéger son manuscrit. Parce que, en fait, c'est même pas. Si vous le passez à votre meilleur ami, même si vous avez confiance à 1000% en lui, et que vous ne doutez pas de lui, il peut très bien être comme moi, distrait, comme j'ai perdu ma feuille de route, oublier le manuscrit dans un bistrot, et comment prouver après que c'était vous. Donc, la première chose à faire, quand le dernier point, le point final est mis, c'est de le protéger. Voilà.
Encore des questions? Il y a d'abord une question là-bas tout en haut.
Moi j'avais une question. En fait, pourquoi vous avez décidé de commencer le début de votre roman par un procès et pas de, de mettre le procès à la fin, après la chute?
Ah, parce que ça fait partie de l'intrigue. C'est quelque part, c'est que... De nouveau, c'est venu très naturellement. C'est que je voulais qu'on découvre qu'à la fin... Et oui, c'est pour mener l'intrigue. Même si c'est pas un polar, Célestine, tout le monde, enfin, tout le monde me l'a dit, on se demande vraiment jusqu'à la dernière page qu'elle est arrivée. Et donc, c'est uniquement pour ça.
Et j'avais une deuxième question aussi pour vous deux. Est-ce que vous auriez des conseils de comment écrire un livre, de la procédure pour écrire tout un roman avant l'édition?
Oh, là, moi, je ne peux pas répondre parce que je viens de dire, j'étais tellement... Je vais le laisser répondre parce que moi, c'est vraiment... C'est un livre, même le jour de la division, je l'ai dit, il m'est tombé dessus. Et en fait, j'ai plein d'idées de romans dans la vie, plein, et je sais que je ne les écrirai jamais. Mais que ce soit Célestine ou Esprit de famille qui vient de sortir, et ce sont des histoires qui me sont tombées dessus, donc je serais très mauvaise conseillère pour dire comment... Je les écris trop naturellement que pour pouvoir répondre à la question. Donc, je te laisse.
Alors, salut. Déjà, pour moi, je dirais qu'il n'y a pas de recette. Et le seul conseil que je te donnerais, c'est de ne prendre de conseils de personne. Et de faire confiance un maximum à ton intuition, à ce que tu as envie de raconter et partager. Et de toute façon, l'écriture, dans un premier temps, c'est surtout pour soi-même. Donc, fais-le pour toi et puis après, tu verras bien.
D'accord. Merci.
Moi, j'avais une question, c'est pour les deux. Est-ce que vous avez eu un passage le plus compliqué à écrire?
Un
passage plus compliqué à écrire?
Bon, ça, je peux répondre vraiment, facilement. En fait, tout me vient naturellement. Et puis, en fait, les seuls passages où c'est extrêmement dur pour moi, mais où je peux passer des fois des heures sur un paragraphe, c'est quand il n'y a pas quelque chose de très important dans ce paragraphe, genre il n'y a rien de fort ou rien de drôle ou rien de... Mais il doit être là. Je ne peux pas m'en passer. Il faut qu'on comprenne après d'autres choses. Et donc, dans ce moment un petit peu banal, mais un moment charnière, je peux ne pas m'en sortir et écrire, par exemple, j'ai deux, trois pages dans Célestine que j'ai écrit, mais avec une facilité où je ne me suis pas repris sur un mot ou sur une virgule. Et puis, il y a quelques paragraphes où j'ai passé des heures entières et en me disant, bon, te laisse tomber, te reviens dessus, va dormir. Voilà. Pour moi, c'est ces passages-là qui sont extrêmement durs. Mais pas du tout au niveau de l'inspiration ou non, pour tout le reste ça coulait, mais voilà.
Alors salut. Alors moi j'ai tellement kiffé, j'ai pris ça vraiment comme un jeu où je me prenais vraiment pour un écrivain avec des cigarettes, du vin blanc et tout ça, et j'étais là, j'avais vraiment l'impression d'être un écrivain. Et en fait j'ai essayé de conserver le plus longtemps possible la dimension ludique, ce qui fait que j'ai jamais été bloqué, voilà, toujours être aspiré par quelque chose. Et en fait, c'est plutôt après faire le tri. Parce que quand t'écris beaucoup avec du vin blanc, quand tu te relis, tu dis, en fait, c'était nul. Donc c'est plutôt retirer des passages, mais il n'y a pas eu de... C'était que du plaisir, que du kiff.
Oui, je voudrais rebondir justement parce que vous écrivez en rythme. Et ce rythme, c'est quand même quelque chose qui se travaille, il n'y a pas que le vin blanc.
Alors, bien sûr, et heureusement. Mais merci le vin blanc. Mais
il
n'y a même
pas d'être plus de rythme quand il boit du vin blanc.
Non, après moi j'ai un processus d'écriture qui est lié à mon parcours de rappeur et de slammer. C'est-à-dire que dès que je finis une page ou un paragraphe, je veux l'entendre résonner. Donc je me la lis à l'oral pour voir comment les mots ils sonnent, comment ils s'articulent. Et après j'ai le processus inverse aussi d'écrire dans ma tête, de dire à l'oral et de passer ensuite sur le papier. Donc il y a toujours, c'est dans mon parcours quoi, de passer de l'écriture à l'oralité.
Et c'est vrai que pour la relecture, quand on se relit ensuite, avant de l'envoyer, moi, je le fais de plusieurs façons. C'est bien de le lire sur l'écran, c'est bien de le lire sur papier. C'est chaque fois une lecture différente. Des fois, je le mets, y a un système audio où quelqu'un le lit, et c'est de l'oral. Et je l'ai déjà lu mon livre moi-même oralement. Donc c'est comme en mathématiques, quand on fait une addition avec la preuve, etc., c'est de le faire de plusieurs façons Et par exemple, quand la femme lisait sur l'ordinateur, on entend le truc qui nous accroche l'oreille. Et donc, c'est bien de le lire, le relire de plusieurs façons. Oui.
J'avais une question. Au cours de votre processus d'écriture, est-ce que vous avez eu des moments de doute ou été à court d'imagination ?
Moi, personnellement, j'ai jamais été à court d'imagination. Le doute, bizarrement... non, j'ai su en terminant Célestine et en le fermant, en ayant eu pas mal lu dans la vie, qu'il était différent. Et je me dis, ça va faire ma force ou ma faiblesse. Mais j'ai mené l'histoire un peu comme une kamikaze. Je veux dire, j'ai pas trop réfléchi, j'ai pas voulu être habité par le doute. C'est pas pour ça que je me disais je vais être édité. Je ne réfléchissais pas, je continuais comme un. Et je suis comme ça. Je suis surtout devenue comme ça dans la vie, et ça me réussit très 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 bien. C'est-à-dire, je commence pas à rêver ou à douter. C'est je fais, j'agis, et on verra bien. Et je me rends compte que non, j'avais pas perdu la foi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne pense pas que ce soit la prétention en me disant c'est sûr qu'il va être édité. Pas du tout. On va vraiment croire maintenant que je suis une mystique. Hein, mais j'étais habitée par une foi. Et ce qui est bizarre, c'est que l'histoire de Célestine, même à Bruxelles, il y a plein de gens qui disent c'est une histoire. Il s'appelle Célestine. Et ils en jouent de mon titre. Ils disent. C'est une histoire céleste. Mais voilà, j'ai pas été habitée par le doute, mais c'est parce que je réfléchissais pas trop, j'y allais.
Alors, salut. Alors là, pour moi, je dirais que cette question, elle se posera certainement pour un deuxième roman ou un troisième roman, si on a la possibilité de le faire. Quand j'entends Sophie, j'ai l'impression de m'entendre moi-même et d'entendre plein de primo-romancières et de primo-romanciers que j'ai croisés toute l'année dernière. J'ai l'impression qu'un premier roman, en fait, on l'a déjà en nous depuis très longtemps. Et que c'est une espèce de projection de ce qu'on a maturé pendant peut-être parfois des années, ou en tout cas des mois. Et que c'est une espèce de jet très intuitif où il n'y a pas de place pour le doute finalement parce qu'il était en nous depuis trop longtemps.
Oui,
j'ai pas mieux comme réponse.
Mais moi, si 5 minutes avant, je savais pas que j'avais écrit Célestine, pas mal de gens me disent, mais sans doute qu'il était en toi et que tu ne le savais pas. Donc, oui, voilà.
Alors, moi, j'ai une question pour Ruda. Là. Vous qui étiez habitué à écrire des musiques, quand les mots vous sont venus, qu'est-ce qui a tranché entre je vais écrire une musique ou je vais écrire un livre cette fois-ci?
Alors, c'est ce que j'ai essayé. Salut. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Il y a la dimension de challenge, c'est-à-dire moi, je suis vraiment l'écriture, c'est ce qui me tient debout, c'est ce qui m'a emmené ici, mais dans plein d'autres endroits, et ce qui me fait me sentir vivant encore. Et c'est cette idée d'embrasser un défi, de relever un challenge. Voilà. Par exemple, je parlais hier avec un auteur de théâtre. Je trouve que l'écriture de pièces de théâtre, c'est encore un autre challenge. Je ne sais pas si je le ferai, mais c'est encore une autre technicité, une autre approche des mots et de l'écriture. Donc c'est vraiment cette envie de relever un défi.
J'aime beaucoup le Fombo Challenge et je trouve qu'il n'y a rien de plus gai que de s'épater soi-même. Moi, je ne fais pas tout ça pour épater les autres, mais quand je me surpasse, par exemple, j'ai dû passer énormément à la télévision. C'est une chose que je ne supportais pas et que je ne supporte toujours pas. Et qu'avant, quand on me demandait de passer à la télé, c'était non. Maintenant, pour Célestine, je suis prête à le faire, mais je déteste passer à la télévision, mais je le fais. Et en fait, j'en tire une fierté, mais que vis-à-vis de moi-même, c'est-à-dire de se dépasser est un sentiment merveilleux, je trouve. Oui, je n'ai pas d'autres mots. Et le mot challenge, oui.
J'aurais une question pour Ruda. Pourquoi Ben choisit forcément la violence alors qu'il veut vraiment changer les choses? Parce que certaines personnes pourraient le trouver assez pessimiste.
Salut.
Bonjour.
Excellente question. La violence, c'est un sujet qui me passionne depuis longtemps, voire depuis toujours. Moi, je suis pas forcément d'accord avec lui, déjà, sur ce choix de recourir à la violence. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres alternatives à explorer avant de passer à cette dimension-là. Après, mon personnage, comme beaucoup d'habitants et d'habitantes des quartiers populaires, grandissent dans la violence, qui n'est pas forcément une violence physique ou une violence verbale, mais c'est une violence systémique de misère, de stigmatisation, de chômage, d'absence, d'abandon. Et c'est peut-être ça les pires des violences, je trouve. C'est juste qu'à un moment, Ben, il a essayé d'aller au bout des mots, il a essayé d'aller au bout du dictionnaire, et que ce dictionnaire n'avait plus suffisamment de mots à lui offrir, et le dernier, c'était cette alternative-là, que je ne cautionne pas, bien sûr. Mais une idée, en fait, en gros, ça vient d'un morceau de Tupac Shakur, je ne sais pas si vous connaissez Tupac Shakur, voilà. Rappeur américain, qui dit, en gros, c'est un morceau qui s'appelle Violent, donc violent, qui dit, puisqu'ils nous considèrent comme violents, on va leur donner des raisons de le croire. Et je crois, en fait, c'est une dimension un peu jusque-boutiste de mon personnage, de dire, OK, vous nous prenez pour des animaux et pour des gens violents, je vais vous donner des raisons de le croire, mais des bonnes raisons de le croire. Voilà. Mais encore une fois, c'est un personnage qui parle, c'est pas moi.
Bah, du coup, vous venez de parler de Tupac Shakur, ça fait une transition vers ma question. Vous avez mis une BO dans le livre. C'est pas c'est quelque chose que j'ai jamais vu avant. C'est surtout dans les films. Pourquoi vous l'avez fait ?
Salut. Alors déjà, bah parce que moi, la musique m'accompagne. C'est vraiment c'est un de mes meilleurs amis, une de mes meilleures amies, la musique. Elle est toujours là dans mon quotidien. Je voulais que mon héros puisse aussi être accompagné de cette bande son. Et cette bande son, en fait, c'est aussi des repères très chronologiques dans le temps. C'est-à-dire ce que lui a écouté au début, ça va du Wu-Tang, de Cypress Hill jusqu'au Perrier Noir, la jeunesse en berne du Front National. C'est aussi un peu comme les événements historiques du roman, c'est des gros marqueurs qui permettent aux lecteurs, aux lectrices de se repérer dans le temps aussi, si on connaît les morceaux. Et si on ne les connaît pas, c'est aussi pouvoir se nourrir d'une autre culture et de voir aussi que les quartiers populaires ont accouché d'énormément d'auteurs et d'autrices importants. Et voilà, c'est aussi une manière de leur rendre hommage à ces auteurs et ces autrices.
J'ai une deuxième question. Vous avez parlé des éditeurs. Je ne sais pas ce que c'est quoi ?
Alors, un éditeur, c'est la personne qui va t'accompagner dans la sortie de ton roman. Donc, il y a plein d'éditeurs en France, comme le disait Sophie. Il y a des gros éditeurs, des petits éditeurs. Et en gros, il est chargé de la fabrication, de la distribution et de la promotion de l'objet. Voilà, faire en sorte qu'il soit dans des librairies. C'est lui qui rend possible la rencontre entre l'auteur et le lectorat.
Mais les auteurs, vous gardez les masters du livre ou pas ?
Un master du livre, c'est ça ?
Je sais pas comment
dire pour la musique. Alors, en fait, tu signes des contrats avec des pourcentages qui te reviennent. Mais tu restes propriétaire. En France, heureusement, la propriété intellectuelle qui existe depuis très longtemps, heureusement. Et donc, tu es toujours propriétaire intellectuellement de ton œuvre. Et après, tu signes un contrat où tu cèdes à l'éditeur le droit d'exploiter ton œuvre. Comme dans la musique.
Pour Sophie Wouters.
Oui. Salut.
Bonjour. Bonjour.
Je me moque pas. Oui. Pardon.
Célestine est un personnage introverti qui peu à peu va se développer socialement.
Oui.
Puis suite à l'accident avec son oncle, elle va régresser.
Pas trop en dire pour ça.
Elle va régresser puis se muer dans le silence.
J'ai pas compris la fin. Pardon.
Elle va régresser et se muer dans le silence.
Oui.
Est-ce que ce silence était-il nécessaire à la thématique de votre livre ?
C'est pas que c'était nécessaire. C'est comme ça que je l'ai senti tout de suite. Et je pense, on en a beaucoup parlé hier soir, j'étais à Bourg-Saint-Maurice, on en a énormément parlé. Il y avait pas mal de gens qui l'avaient lu, et il y avait une sorte d'échange avec les personnes qui comprenaient à fond pourquoi elle s'était tellement, elle ne disait pas un mot, et puis ceux qui ne comprenaient pas pourquoi elle ne s'était pas défendue. On a beaucoup parlé hier. Pour moi, par exemple, j'ai pas envie de trahir dire ce qui s'est passé dans le livre, mais moi ça m'est jamais arrivé. Mais je sais très bien que derrière mon côté bavard, je peux me taire comme Célestine, ne rien dire à personne et pendant très longtemps. Et j'en ai parlé avec pas mal de personnes hier soir et qui comprennent parfaitement ce silence. Bon, je ne peux pas trop dévoiler du bouquin, évidemment, mais ça. Ce que je peux dire, c'est que Célestine, dans ce qui lui est arrivé, s'est sentie comme morte. Et pour elle, au cours de procès, elle n'existe plus. Elle est un peu comme une morte vivante. Et une morte, ça ne se défend pas. Mais ça m'a paru tout naturel. Non, dès les premières pages, le juge qui aimerait bien la sauver, il s'énerve un peu, il s'angoisse parce qu'elle ne veut pas dire un mot. Non, elle gardera le silence jusqu'au bout. Que dire que... Oui, il y a les gens qui comprennent parfaitement ce silence et d'autres pas. Je ne sais pas dire pourquoi. Je pense que c'est une question de nature. À un moment donné, quand quelque chose devient too much, il y a des gens qui ne se battent plus. C'est pas facile d'en parler sans dévoiler. Donc, je suis désolée. Je ne sais répondre qu'à moitié. Je ne suis pas très claire. Mais.
Il y a encore une question ici au troisième rang. Ah, mais d'abord là-bas.
Oui. Bonjour. J'aurais une question pour Rouda, s'il vous plaît. C'est par rapport au tournant que vous avez pris dans votre parcours. Est-ce que vous avez été bien accueilli chez
vous êtes où, excusez-moi. Ah, voilà.
Est-ce que vous avez été bien accueilli chez les auteurs, de passer de rapport à auteur? Est-ce que vous avez reçu des commentaires plutôt négatifs ou positifs?
De la part de qui?
Un peu tout le monde.
Alors, déjà, moi, je n'accorde pas trop d'importance aux remarques extérieures. C'est quoi? Tu parles des... Salut. Tu parles des rappeurs ou des auteurs? Je comprends pas trop bien
rappeurs,
la question.
Auteurs et surtout ceux qui vous écoutent votre musique et ceux qui lisent vos livres.
Ah, ok, j'ai compris. Alors déjà, c'est des milieux très différents, le milieu de la musique et le milieu littéraire. Je trouve le milieu littéraire beaucoup plus bienveillant, mais c'est normal parce qu'il y a moins d'enjeux financiers, moins d'enjeux de fame aussi. Dans la musique, les rapports sont parfois cruels et plus complexes parce qu'il y a plus d'argent, il y a plus d'enjeux. Mais globalement, le milieu du rap et tout ça, ou du slam, accueille généralement bien les auteurs qui sortent des romans. Et par contre, dans l'autre sens, je ne sais pas trop, parce que je suis un peu nouveau, donc je ne sais pas comment c'est... Voilà.
Et j'aurais une deuxième question, s'il vous plaît. Est-ce que vous regrettez votre choix?
Quel choix?
De passer de rappeur à auteur.
Alors pas du tout, parce que ce n'est pas un passage définitif. C'est pas, tu arrives dans une autre pièce et tu peux plus sortir de cette pièce-là. Moi, j'aime bien, et ça a toujours été mon cas, passer d'une discipline à l'autre, ne pas me priver d'autres expériences. Peut-être que je sortirai jamais de deuxième roman. Peut-être que je vais sortir un autre album. Peut-être que je vais rien faire. Ou peut-être que je vais juste rentrer chez moi et dormir. Je ne sais pas encore. Donc non, je regrette pas du tout.
Alors, je me lance. Rouda. Le reptile tranquille se faufile et globe. L'air du temps du... Je recommence. Oui. Tu peux prendre la suite. Le reptile tranquille se faufile et globe. L'air du temps du globe, la plèbe et le snob.
C'est super beau, mais c'est quoi?
Ah, et ben pour moi, c'est le résumé de ton livre. Oui, c'est la première phrase de Prose Combat d'MC Solar. Et je pense que ma question, c'était, est-ce que si MC Solar n'avait pas appelé son album Prose Combat, est-ce que ton livre, ton roman, aurait pu s'appeler comme ça?
Non, définitivement non. Parce que Claude MC Solar est empreint d'une douceur qui aurait été antinomique en fait avec le propos que je voulais porter. Et il me fallait une radicalité. Pour ce combat, pour moi, c'est de la poésie musicale, la poésie à l'oral. C'est très beau. Et merci beaucoup pour cet hommage. Ça me touche beaucoup. Mais c'est trop éloigné du propos que je voulais défendre, qui avait besoin de radicalité.
Moi, je trouve qu'il y a de la radicalité chez MC Solar parce que justement, il est doux.
Alors, moi, je vous propose qu'on en débatte.
Ouais.
Je suis pas super d'accord. Vous faites quoi là après,
si vous voulez en rester.
Non, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, la notion de radicalité dans une œuvre artistique. Et je trouve ça très subjectif. Donc moi, je suis fan nécessairement d'MC Solar et de ce premier album. Mais il a pour moi une douceur, quelque chose d'un peu évanescent, d'un peu impalpable, qui est un peu éloigné du propos que moi je voulais défendre, où il me fallait un peu de rugosité et des poings qui s'écrasent contre des murs, et du sang qui coule, et de la douleur. C'est quelque chose que je ne ressens pas dans son œuvre. Mais ça, c'est un truc d'auditeur. Okay. À vous.
Après, moi, je trouve que au moment où MC Solar a sorti cet album, justement, il y avait cette radicalité pour changer par rapport à tout ce qu'on pouvait entendre, MTM ou IAM, qui était dans une autre sorte de poésie. Et je trouvais vraiment qu'il avait son point de vue et le fait aussi qu'il ait été qualifié de rappeur un peu à part ou un peu rêveur, un peu poète par rapport aux autres, je trouvais que ça le sortait de là et c'était là son combat à lui.
Voilà. Je sais pas, on continue ou
Bah, j'aurais bien aimé parler des stigmates et de la lutte des classes, mais peut-être qu'on n'a pas le temps non plus.
Ah. Je pense qu'on va entamer une deuxième heure.
Depuis tout à l'heure,
il y a toujours une jeune fille qui voudrait poser une question. Oui.
J'apporte le micro. Alors, bonjour. J'ai une première question. Ça serait, j'aimerais savoir, ça vous a pris combien de temps à chacun pour écrire votre livre ?
En fait, moi, ça a été assez rapidement parce que pendant 2 mois et demi, je n'ai fait que ça. J'ai vu personne. Et j'ai travaillé comme quelqu'un qui va au bureau, c'est-à-dire que tous les matins, je me levais et je me mettais devant l'ordinateur et je travaillais jusqu'à 18h, 18h30, où là, je commence à être fatiguée, où je sentais qu'il n'y a plus de bon, rien de bon qui en sortirait. Et donc, à peu près, disons, pour que le livre soit terminé, après ça, il y a le travail correction et autres, etc. Mais terminé, je dirais 2 mois et demi, mais en ne faisant que ça, hein, même le dimanche, 7 jours sur 7, toute la journée. Voilà.
Alors moi, je vais, c'est pas pour copier Sophie, mais c'est à peu près la même réponse. Mais je l'expliquerai par une raison assez simple, ce que je disais tout à l'heure. C'est, je pense que ça faisait peut-être 20 ans qu'il était dans ma tête. Et moi, je l'ai écrit en 3 mois. Mais parce que je pense que je l'avais déjà en moi depuis longtemps.
Et comme il est un tout petit peu plus gros que le mien, quand même, 2 mois et demi, 3 mois, ça se tient. C'est à peu près la même réponse.
D'accord. Alors, j'ai une seconde question. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous aimiez beaucoup donner des prénoms aux personnages. Et j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi le prénom Célestine comme titre du livre et comme prénom du personnage principal.
Alors, Célestine, c'est ça de nouveau, imposé à moi. Mais en fait, il y a aussi, dans l'ironie, c'est que Berthe et Aristide n'ont jamais voulu avoir d'enfant. Et donc, c'est avec une pointe d'ironie que Berthe, parce qu'elle a l'impression que cet enfant lui tombe du ciel et qu'ils vont quand même la prendre sous leurs ailes, et donc c'est avec une pointe d'ironie qu'il appelle Célestine. Au même moment, ça m'a paru une évidence qu'il devait s'appeler Célestine, mais en sachant déjà toute la difficulté que ce serait qu'il s'appelle Célestine, puisqu'il y a des livres pour enfants qui s'appellent Célestine, que Célestine, c'est plutôt un titre féminin, qui, je me dis, ça va attirer plus les femmes que les hommes, ce qui était le cas au départ. Et puis maintenant, les hommes, à force qu'il y ait du bouche à oreille, ont compris que c'était pas un livre de bonnes femmes, c'était pour les hommes et pour les femmes. Mais je savais que Célestine, ce serait pas évident, parce que si... Mais non, déjà en Belgique, des Sophie Wouters, mais il y en a un paquet. Vraiment, j'ai un nom, mais hyper courant. Célestine, il y a eu Célestine Babar, Célestine Les livres pour enfants. 15 jours après Célestine, est sortie Célestine Dubac de Tatiana René. Enfin, voilà. Donc, je savais que... Mais pour moi, il n'était même pas question de l'appeler autrement, malgré cette difficulté que je connaissais déjà, on va dire. Et puis les autres prénoms, je sais pas, c'est un bonheur. À partir du moment où on sait plus ou moins quel personnage on veut avoir, oui, de lui trouver un prénom, c'est, oui, c'est comme je disais tout à l'heure, des parents qui choisissent des prénoms pour leurs enfants pour leur enfant qui va naître.
D'accord, merci beaucoup.
Oui, pardon.
Bonjour, j'avais plusieurs questions. Comment vous viennent les noms du titre? Enfin, comment vous viennent les idées pour le titre?
Moi, je viens de répondre. Donc,
Alors, moi, le titre, en fait, c'est un, ça part d'un, je sais pas si c'est un jeu de mots, mais c'est un détournement. Ça vient du combat à main nue. Et j'avais plutôt envie d'imaginer un combat à mots nus. Et je crois aussi que les mots nus, c'est les mots qui nous restent une fois qu'on a fini de lutter.
Et est-ce que vous êtes inspiré d'une musique que vous avez déjà faite pour votre livre?
Non. C'est, je me suis plutôt laissé porter par les musiques de la bande-son qui accompagnent la chronologie, mais pas nécessairement par quelque chose que j'avais déjà écrit avant.
Okay. Et pour Célestine, est-ce que pourquoi elle a une vie autant tragique? Enfin, dans l'histoire, c'est un peu...
Ah oui, c'est tragique. Et parce que, quelque part, personne sur cette terre ne choisit sa naissance, ni le pays, ni sa pauvreté, ni la richesse, ni son physique, ni les parents. On ne choisit rien. Et quelque part, c'est de nouveau une façon de mettre en exergue, à part qu'elle est très belle, mais dans la France profonde, dans un village de la France profonde, je ne pense pas que ce soit un cadeau d'être aussi belle qu'elle. Oui, c'est de mettre en exergue ce que je viens de dire, que oui, c'est parler quelque part du hasard de la naissance. Oui. C'est vraiment pas de bol, mais il y a quand même pas mal de gens sur la Terre qui ont pas de bol. Hein.
Bonjour à vous. Du coup, j'ai une question plus personnelle, si c'est pas indiscret pour vous. Est-ce que vous arrivez à vivre de votre passion? Donc là, c'est votre premier roman ou pour la musique, je sais pas.
Alors, un écrivain, il ne gagne rien. C'est ridicule ce qu'il gagne. Il gagne, et on a de la chance quand c'est 10%, parce qu'il y en a qui gagnent 8% brut de leur livre. Mais bon, moi j'avais un petit atelier qui était à moi. Et comme je n'en vis pas, je viens de le vendre, j'ai mis toutes mes affaires dans ma salle à manger, j'ai plus de salle à manger. Et donc ça m'a fait une petite poire pour la soif et pour pouvoir continuer à vivre de mes passions. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je suis un peu une kamikaze, ça veut dire je m'en fous d'avoir 20 mètres carrés en moins. Et bon, en Belgique, on a quand même des intérieurs plus grands que hein, en France déjà. Et mais on n'en vit pas, non. En fait, on vit des fois plus des rencontres. Par exemple, j'ai une rencontre littéraire à la Foire du Livre de Bruxelles. J'ai eu un petit défraiement. Je suis partie dans une école pour parler avec les 6 classes de dernière année. J'ai eu un défraiement. Et là, c'est comme si on avait vendu quand même quelques centaines de livres sur la journée. Mais sinon, non, on n'en vit pas. Non, on n'en vit pas. Oui, on peut en vivre quand quelqu'un fait un énorme... Bon, Célestine, c'est un best-seller, mais ce n'est pas un best-seller genre 100 000 ou 200 000. Mais ceux qui vendent 100 000 ou 200 000 livres, évidemment, qui gagnent leur vie. Mais ils ne sont pas nombreux. Tu es d'accord avec moi?
Alors non, parce que moi, je suis extrêmement blindé. Non, mais en fait, moi, le roman, c'est une de mes activités. Moi, je suis intermittent du spectacle depuis 24 ans. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un ensemble d'activités très différentes, plurielles, mais toutes reliées par l'écriture et l'oralité. Et en fait, voilà, je vais faire des spectacles. J'ai un label, j'ai un studio d'enregistrement. Je fais de l'action culturelle. J'écris pour des séries télé. J'ai ce roman, j'ai des lectures musicales. Donc moi, j'ai plein d'activités très différentes qui font que c'est mon métier depuis longtemps et que j'en vis. et que j'ai pas besoin de faire autre chose que ma passion.
Mais t'aurais écrit que ton livre, tu ne vivrais pas.
Franchement, cette année, je pense que si. Mais que pour un an.
Ah. Tu vois, c'est déjà bien.
Ce qui est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, je trouve. Ouais.
Ok, merci.
Il n'y a pas de quoi.
Alors, bonjour. Et
vous êtes où?
Je suis ici.
Salut.
Bonjour. Alors, lors du processus d'écriture, il y a énormément d'émotions qui peuvent vous passer à la tête, des humeurs et plein d'autres choses qui peuvent influer du coup votre écriture. Et moi, ma question, c'était est-ce que vous êtes sûr d'avoir fait retranscrire le bon message sur votre livre? Et est-ce que vous pensez que les gens ont bien compris ce message-là, s'il y en a un?
Et la question est pour les deux ou un des deux?
Ouais, pour les deux.
Ouais. Moi, c'est pas vraiment. On renvoie le commence.
Super, c'est une super question parce que c'est relié en fait au processus non seulement de création, mais aussi à comment peut être reçu un processus de création. Et je pense que cette question elle se pose aussi bien pour l'écriture d'un roman que pour un morceau, que pour une œuvre picturale, pour une série, pour un film. Il y a une part très mystérieuse. Et je trouve ça cool aussi qu'il y ait cette incertitude de ne pas être sûr d'être au bon endroit, d'avoir trouvé le bon message. Et c'est que dans des échanges comme on a maintenant qu'on peut éventuellement explorer ce sujet-là, le valider ou savoir « Ah, je me suis trompé ». Je dirais qu'il y a une part de mystère quand on le fait et de fragilité aussi énorme parce que tu n'es jamais sûr à 100% d'être précis dans ce que tu voulais retranscrire. Enfin, ça, c'est mon émotion à moi. Après, je ne sais pas pour toi.
Moi, je me rends compte que je n'ai pas envie de passer des messages et je pense que s'il est tellement... il y a quand même quelques écoles où il étudie Célestine. Moi, j'aime bien plutôt de poser des questions. Je n'apporte pas vraiment la réponse. Mais en fait, je travaille par séquence, pas par chapitre. Et j'aime bien, quelque part, que la plupart de mes séquences ont une chute où je préfère relever une question et que la personne se questionne. Moi, j'ai pas de message à faire passer. Plutôt des questionnements, j'ai envie de dire, à faire passer. Mais.
Merci.
Je ne sais pas s'il y a encore des questions, mais peut-être une dernière. Parce qu'après, je pense que certains jeunes voudraient faire dédicacer leur ouvrage.
Vas-y. Bonjour, j'avais une question par rapport au théâtre. Vous l'aviez évoqué un peu tout à l'heure et je me demandais si vous envisagerez d'adapter une de vos œuvres sous forme théâtrale.
Alors, sous forme théâtrale, je pense que je n'aurais pas la technique ou à la fois je sois vraiment accompagné et aidé. Par contre, l'exploitation cinématographique, ce serait vraiment mortel. Parce que je l'ai aussi imaginé comme un film. Enfin, je l'ai beaucoup visualisé, beaucoup colorisé. Enfin, je voyais mes personnages, je voyais des séquences, je voyais des territoires, des espaces. Mais le théâtre, pourquoi pas, ça peut être une... Il y a des gens qui écrivent du théâtre ici? Personne ne se sent chaud d'adapter un truc? Ok, bah voilà, une autre fois.
Voilà, je pense que nous... Ah, il y a encore une question, excusez-moi.
Désolée.
J'ai pas vu.
Bonjour, j'aurais une question pour Rouda. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre personnage Ben en disant qu'il était à la fois vous et pas du tout vous en même temps. Et vous expliquez d'ailleurs ne pas être d'accord avec toutes ses actions, réactions, points de vue. Et pourtant, dans le roman, il y a un moment où, quand ils sont en prison, vous mettez en scène un rappeur slammer qui vient animer un atelier d'écriture qui vous ressemble en tout point, en tout cas si on se fie à la photo qui décrit le livre. Est-ce que ça crée de la distance avec le personnage de Ben et ce que vous avez pris de vous?
Complètement.
Ou est-ce qu'au contraire, ça vous met dans le roman encore plus?
Alors, merci beaucoup. Ça fait trop plaisir. Non, sérieux, c'est vraiment... c'est trop bien, en fait, d'avoir des retours et des échanges comme ça quand on écrit. Oui, c'est moi. Et ça revient, c'est une transcription de mon expérience en milieu carcéral. Oui, c'est une mise en abîme un peu. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand on est auteur, on fait un peu ce qu'on veut. Et là, je me suis dit, viens, je vais moi-même me planter un stylo dans la main. Et voilà, et effectivement, ça met beaucoup de distance avec le personnage et ça permet de, si jamais on avait un doute, de comprendre que c'est pas complètement moi.
Merci.
Bah, merci à toi.
Voilà, je pense que nous pouvons. Oh non, il y a encore une.
Bonjour. J'avais une question pour les deux. Les deux. Où écrivez-vous et enfin dans quelle ambiance?
Ah. Moi, c'est très simple. Chez moi, tout se passe dans la cuisine. Même mes tableaux, atelier. J'ai un endroit. Même mes amis, hein, quand ils viennent chez moi, c'est là qu'ils veulent s'installer. C'est dans ma cuisine. J'ai écrit tout mon roman dans ma cuisine, qui est une pièce très lumineuse et qui est un peu une pièce à tout faire. Elle est cuisine, elle est bureau, elle est tout à la fois. Voilà.
Moi, c'est un bordel.
Alors, aussi,
moi, cuisine. J'écris debout, assis, allongé. J'écris sur mon téléphone. J'écris sur des bouts de papier quand j'en ai sous la main. J'ai un poste de travail, mais qui est ultra nomade. J'ai un ordi, mais je peux écrire dans le train, chez moi, si on me laisse écrire, sur un bout de table. Je n'ai pas de poste fixe parce que j'ai pas envie d'avoir. J'ai choisi de faire ce métier artistique pour ne pas avoir une vie classique et pas avoir une vie de bureau. Et ça m'angoisserait terriblement de me dire que j'ai un poste de travail dédié et que là, il faut écrire et que, putain, il est 8 heures, vas-y, il faut que tu t'y mettes. Ce serait horrible. Donc, je préfère avoir un mode de liberté totale. Et si j'ai envie d'écrire, j'écris. Si je veux pas écrire, j'écris pas. Et si je veux écrire sur un bout de table, j'écris. Je partirai avec la table. Et c'est pas grave.
Ouais. D'accord. J'avais une autre question. Aimez-vous avoir des lecteurs?
C'est juste extraordinaire d'avoir des lecteurs. C'est fabuleux. Moi, j'ai pas d'autres mots. C'est fabuleux.
Je vais pas. Ouais, je suis grave d'accord avec Sophie.
Ouais, c'est tout. Merci.
Je pense qu'on peut remercier Sophie Wouters et Rouda pour leur réponse. Oui, et je vous invite, si vous le souhaitez, à...